Bienvenue à toutes et à tous à cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Et voici les titres qui vous seront développés. Panama Papers, c'est 11,5 millions de fichiers qui dénoncent les fraudes et évasion fiscale des personnalités politiques et du monde des affaires qui préfèrent placer leur savoir dans les paradis fiscaux. Des voix se sont levées pour appeler les institutions de la RDC à mener des enquêtes indépendantes pour que la lumière soit faite à ce sujet. Rareté de maïs sur le marché de Lubumbashi et la flambée de prix de cette denrée, c'était encore invité dans l'actualité cette semaine. Le ministre de l'économie nationale qui s'est rendu sur place a annoncé quelques allègements fiscaux pour encourager les importations du maïs. Et aux dernières nouvelles, nous avons appris que les prix de ce produit ont baissé. Et puisque c'est la fin de la semaine, le marché de change nous intéresse. Le franc congolais n'est toujours pas en bonne santé face à la devise américaine sur le marché de change. La semaine se clôture sur le taux de 970 voire 980 francs congolais pour le dollar américain sur le marché parallèle et au taux de 945 francs le dollar au taux de la Banque centrale du Congo. Merci pour votre fidélité à ce magazine sur Radio Okapi. Michel Somo est notre invité pour des analyses et commentaires.
Panorama économique, le dossier.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Ouvrons ce magazine Panorama économique par les révélations des Panama Papers depuis la semaine dernière. Ces révélations font état de fraude et évasion fiscale. Elles parlent des paradis fiscaux et des entreprises offshore. De quoi s'agit-il exactement? De qui parle-t-on dans ces documents qui s'imposent dans l'actualité? Nadine Foula nous donne quelques éléments de réponse dans cet élément.
Les révélations de Panama Papers font état de fraude et évasion fiscale. Elles parlent des paradis fiscaux et des entreprises offshore. Elles ont été publiées la semaine dernière par 108 médias réunis dans un consortium international de journalistes d'investigation. Ces médias, avec le journal français Le Monde en tête, ont eu accès à une très grande masse inédite d'informations gardées secrètes provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation des sociétés offshore. 11,5 millions de papiers. Le Consortium international des journalistes d'investigation est une organisation sans but lucratif qui fonctionne avec 180 journalistes d'investigation répartis dans 65 pays à travers la planète. Elle s'est donnée pour mission de révéler au grand public ce que les autres préfèrent cacher. Le papier des Panama ont révélé que des chefs d'État, des milliardaires, des grands patrons, des figures du sport, de la culture, de l'économie, des institutions financières créent des sociétés afin de dissimuler leurs savoirs et ils sont aidés dans cette affaire par des banques. Et ces sociétés, ils les créent en dehors de leur pays, les placent dans les paradis fiscaux, les alimentent avec beaucoup d'argent, parfois d'origine illicite et ne payent quasiment rien en termes d'impôts. Les institutions des pays dont les citoyens sont cités dans ces révélations se sont mises à l'œuvre partout depuis la publication de ces informations. Les chefs de gouvernement et autres personnalités incriminées se sont justifiées pour les uns, les autres ont tout simplement démissionné de leur poste. Des parquets ont entamé des poursuites judiciaires pour que la lumière soit faite au sujet de fortunes de personnes citées dans Panama Papers. Dans une déclaration de ce mardi depuis les États-Unis, le docteur Chami Mwadiamvita invite le procureur général de la République, le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale de se saisir de ces dossiers en organisant des enquêtes professionnelles et interpellations publiques dans le respect absolu de lois en vigueur tout en gardant à l'esprit le principe de la présomption d'innocence. Il en va de l'intérêt des personnes et firmes citées dans le Panama Papers et du public congolais et aussi de la crédibilité de la RDC en tant que pays.
Lundi, nous avons parlé de la hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs à Lubumbashi. Le commissaire spécial du Haut-Katanga avait réuni le week-end dernier les opérateurs économiques membres de la FEC Katanga pour tenter de trouver des voies et moyens de couvrir la crise qui frappait la ville parce que le sac de 25 kilos était passé de 14 000 francs congolais à 25 voire 30 000 francs congolais. Le président de la FEC Katanga, lui, avait appelé le gouvernement congolais à négocier directement avec la République zambienne à ce sujet. Eric Monga Mumba l'avait dit au micro de Colin Djuma Moussompo.
Vous avez bien vu, le maïs local est quasiment presque à la fin. Il y a eu cette augmentation. Il faut maintenant prendre le relais avec le maïs importé. Et pour cela, nous comptons sur le gouvernement qui nous accompagne dans nos démarches que nous sommes en train de mener afin d'avoir des quotas au niveau de la Zambie et de l'Afrique du Sud, qu'on puisse ramener le maïs ici. Comme je vous l'ai dit, le problème aussi, c'est un problème de sécheresse de l'Afrique australe aussi. C'est partout qu'il n'y a pas de maïs. Mais avec les relations État à État, l'État peut nous accompagner pour qu'on puisse acheter du maïs en Zambie officiellement. On le ramène officiellement, on passe par la frontière. C'est les bilingues qu'on est en train, que la Zambie est en train de refuser.
Parler de l'accompagnement, de quelle manière cet accompagnement peut être fait?
L'État, c'est notre parent. L'État, c'est notre... C'est maintenant que l'État doit prendre le relais pour nous permettre d'avoir des quotas officiels. Qui dit officiel, ça s'est négocié entre État et État. Au niveau officiel, ça veut dire que l'État congolais s'adresse à l'État zambien ou sud-africain pour nous faire un couloir d'avoir du maïs afin de permettre ce que la population puisse manger. Et c'est cet accompagnement-là que nous croyons que nous voulons avoir. L'État va le faire sûrement parce qu'il y a quand même une grosse délégation des ministres qui arrivent ici pour essayer de trouver une solution à ce sujet.
Et mardi, le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale qui a conduit une délégation dans ces coins de la République, a pris une série de mesures pouvant permettre aux opérateurs économiques de l'ex-Grand Katanga d'encourager la production locale afin d'inonder le marché louchois en grains de maïs. Ces mesures sont prises à l'issue d'une rencontre avec les opérateurs économiques, les autorités provinciales et une délégation de quatre ministres du gouvernement central. Parmi ces mesures figurent l'appui à la SNCC, la création des banques de crédit à l'intérieur de chaque nouvelle province issue de l'ancienne province du Grand Katanga. Modeste Bahati sur des propos recueillis par Colin Djuma Moussompo.
Nous avons parlé aussi de la production intérieure. Le gouvernement a pris une série de mesures. Vous avez suivi qu'il y a les 28 mesures urgentes sur le plan économique, parmi lesquelles il y a la création d'une banque de crédit agricole qui va octroyer le crédit aux producteurs locaux pour leur permettre justement de contribuer à la croissance économique, mais également nous avions pensé qu'il faut voir comment apporter les allègements dans l'approvisionnement des intrants agricoles, notamment les engrais, mais aussi tout un programme d'aménagement des voies d'approvisionnement, notamment les routes, mais également l'appui à la SNCC. Vous savez que depuis un temps, le gouvernement apporte un appui considérable à la SNCC, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être en mesure de transporter de grandes quantités pour approvisionner le marché. Donc il y a une batterie de mesures que je ne peux pas toutes étaler ici, mais les grandes mesures, ce sont celles-là que je viens de vous donner. Donc création d'une banque spécialisée, appui aux producteurs locaux, appui en termes d'intrants, appui en termes d'exonération pour le matériel importé, pour l'accès aux engrais, mais également aménagement des voies d'évacuation, parce que c'est important. On ne peut pas produire si on ne peut pas évacuer.
Et aux dernières minutes, nous avons appris que les prix de cette denrée ont vraiment baissé sur le marché de Lubumbashi. Terminons notre dossier par le marché de change. Il faut aujourd'hui compter 970 voire 980 francs congolais pour obtenir 1 dollar américain. Et voilà qui explique la dépréciation du franc congolais depuis quelques semaines. Après plus de 3 années de stabilité autour de 920-930 francs le dollar, le président des cambistes Bibiane Mukokole a interrogé nous explique la situation sur le marché parallèle.
Sur les marchés, il y a les bouillards, donc les taux n'est plus connu, et il y a la spéculation, il y a les anticipations, il y a la peur qui s'installe, donc avec cette folie-là où le taux de dollar n'est pas connu, donc c'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. Et le dollar se fait rare, et il y a les forces économiques qui cherchent à avoir les dollars, et c'est là entre toujours les taux à la hausse. Avec cette situation-là, notre conseil est qu'on ne peut pas suivre la folie. Lorsqu'une situation est folle, il faut garder le calme essayer de continuer à faire des réformes au niveau de la base pour avoir une organisation qui doit nous amener à une prise de conscience, parce que cette crise, c'est quand même, ça doit être une crise de réveil. Ça doit permettre aux gens de se réveiller pour travailler, parce que toute cette situation que nous sommes en train de vivre, parce que quelque part là, le travail ne suit pas.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine, en plus bref, avant de donner la parole à notre invité Michel Somoué qui est au bout du fil, cette année, les réunions de printemps du conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale se tiennent depuis hier vendredi et vont se clôturer demain dimanche 17 avril 2016 à Washington, et la RDC est représentée par une délégation conduite par le ministre des Finances. Le temps fort de ces rassemblements est constitué par des réunions de comités de développement, de forums conjoints de la Banque mondiale et du FMI et du comité monétaire et financier international du FMI qui permettent de faire le point sur les activités de ces deux institutions de Bretton Woods. Mais cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations autour des sujets liés à l'économie mondiale, au développement international et aux marchés financiers internationaux. En Itourie, environ 2400 hectares de champs de manioc et d'autres cultures sont ravagés par des criquets depuis plus d'un mois dans les territoires de Harou, situé à 290 km au nord de Bounia. Selon le coordonnateur de la société civile de Zaki, la chefferie la plus affectée, cette situation risque d'entraîner une crise alimentaire dans la zone si des mesures ne sont pas prises par les autorités. Nous allons rester en Itourie où la pression populaire monte contre la signature d'un contrat d'exploitation d'or entre la société minière d'or de Kilomoto Sokimo et la société minière CNR Medea dans la localité de Nizi à 30 km au nord de Bounia. Des habitants de ce village ainsi que plusieurs agents de la Sokimo ont marché cette semaine à ce sujet à Nizi. Les manifestants qualifiaient eux cet accord d'aventure suicidaire pour faire disparaître complètement la Sokimo et le village de Nizi. Dans la province de Kwilu, les agents sous contrat de l'Office des routes Brigade 201 basée à Kikwit réclament 43 mois d'arriéré de salaire. Dans un mémorandum adressé il y a quelques jours à leur direction provinciale, ces derniers, au nombre de 34, ont menacé de descendre dans la rue et se proposent d'empêcher la circulation des véhicules sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la ville de Kikwit. Ils précisent que toutes leurs correspondances adressées à leur hiérarchie provinciale à ce sujet sont restées lettres mortes. Ils ont pour cela adressé un ultimatum de 8 jours à leur hiérarchie qui devrait prendre en compte leurs exigences. Et le directeur provincial de l'office de route Bandundu de dire, ces agents qui réclament leurs arriérés de salaire n'ont pas le droit de barricader la route. Il dit, c'est par erreur que la direction a fait signer des contrats à durée indéterminée à ces agents. Pour le moment, l'office des routes cherche de voies et moyens pour mettre tous ses agents en congé technique et de libérer seulement quelques mois de salaire. Ainsi dit, nous allons retrouver notre invité, je vous l'ai dit, Michel Somoué, il est au téléphone et c'est avec lui que nous allons passer en revue les quelques sujets qui sont dans notre dossier. Michel Somoué, vous avez suivi l'actualité avec nous. Nous avons parlé dans cette émission Panorama économique de ce dossier, de cette publication, de ces révélations de Panama Papers. Nous avons également parlé de rareté du maïs sur le marché à Lubumbashi. Et pour finir, le marché de change avec cette surchauffe. La semaine se clôture à 970 francs congolais pour l'unité de monnaie américaine, le dollar. Donc, alors, on commence par cette publication de Panama Papers qui dénonce les évasions fiscales, les fraudes fiscales et des personnalités, des grandes personnalités, aussi bien du monde politique que du monde des affaires, qui préfèrent aller placer leurs avoirs dans les paradis fiscaux. Quelle analyse vous personnellement et des autorités, les institutions de la RDC étaient également citées dans ces révélations?
De toutes les façons, la nature de l'homme, c'est la recherche permanente du gain, et du gain au maximum. C'est le comportement qu'on dit celui de l'homo economicus, qui cherche toujours à gagner et à gagner plus. Ça, c'est le comportement normal d'un homme. Et c'est pour ça qu'il y a les États pour contenir ces élans égoïstes des hommes. Les paradis fiscaux, je pourrais même vous dire que, à mon humble avis, comme je l'avais déjà écrit dans mon livre « La gangrène de l'économie congolaise », à mon humble avis, même la RD Congo est aussi un paradis fiscal. Les paradis fiscaux sont des endroits où il n'y a pas beaucoup de rigueur pour la levée des impôts, où il n'y a pas beaucoup de réglementation qui gêne l'activité économique. Les gens ont l'habitude de cacher leurs avoirs pour les mettre à l'abri, justement, des réglementations fiscales et autres. C'est ça, des paradis fiscaux. Et comme tout le monde l'a déjà dit, ce n'est pas illégal du tout. Ce n'est pas illégal. Mais le problème vient de deux côtés. D'une part, il s'agit souvent de l'argent détourné des comptes de trésor des États. Là, ça ne marche pas. Ce sont des détournements qui sont souvent opérés par des grandes personnalités politiques. Ça, c'est un problème. D'autre côté, il y a des endroits où le phénomène de blanchiment des capitaux est très régulier. De l'argent qui vient de la drogue, même du vol, hein, comme je dis, des détournements, quand ils arrivent là-bas, ils sont en quelque sorte blanchis, cet argent-là est blanchi, et ressort propre. J'ai mentionné que même la RD Congo, à mon humble avis, est un paradis fiscal, ça c'est clair, parce que nous connaissons le laxisme en matière de législation fiscale chez nous, qui n'est pas... Combien de Congolais, en fait, payent l'impôt? Combien d'opérateurs économiques payent l'impôt? Et je crois avoir vu un rapport de la FED qui disait déjà à l'époque que c'est à peu près 0,2% des contribuables qui paient effectivement leur impôt. Donc tous les autres ne paient pas. Donc le Congo est un paradis fiscal, c'est clair. Bon, le mauvais côté, c'est que on détourne l'argent qui aurait dû servir au développement d'un pays à travers le financement de l'État par l'impôt. On le détourne pour le loger dans d'autres pays qui vont, eux, en profiter pour financer leurs États et progresser. Là, c'est le défaut du paradis fiscal.
Et vous avez également suivi de voix des ONG qui se sont levées, et même le professeur Noël, qui est depuis les États-Unis, qui demandait aux institutions de la RDC, notamment le Parlement, le procureur général de la République, de mener des enquêtes indépendantes tout en gardant à l'esprit la présomption d'innocence pour que la lumière soit établie à ce sujet.
Je crois, à mon avis, que c'est la moindre des choses qu'un État organisé, un État de droit devrait faire. Parce que tous les pays du monde le font. Pourquoi pas nous? Pourquoi des personnalités sont citées de cette façon-là dans de tels scandales financiers et on ne peut pas les auditer? Pourquoi on ne peut pas les écouter? Pourquoi on ne peut pas les interpeller? Nous sommes des citoyens, nous sommes tous égaux devant la loi. À mon humble avis, il n'y a pas un seul citoyen congolais qui est au-dessus de la loi, à qui il soit permis de faire ce que bon lui semble pendant que la masse des Congolais souffre. Je pense qu'un État sérieux, un État de droit, comme le revendiquons toujours, doit actionner sa machine judiciaire pour que des interpellations soient faites et que des gens qui sont cités nommément dans ces papiers puissent se justifier et prouver à l'opinion leur innocence. Moi, je ne vois pas en cela un problème, parce qu'on l'a dit, je l'ai répété aussi, que le fait de détenir de l'argent des paradis fiscaux ne veut pas dire forcément qu'on s'est livré à des activités illicites. Ça peut aussi être de l'argent gagné proprement, mais qui est logé dans des paradis fiscaux pour l'accroissement de son gain, disons, en partie, et en évitant une fiscalité excessive dans certains pays. Donc je ne pense pas, à mon humble avis, que ce soit un fait qui soit pris pour un tabou, que pour en parler ça devienne des mythes autour de la question. C'est une question normale de scandale financier. Il est normal qu'un appareil judiciaire du pays soit actionné. Tous les grands ont le fait. On a entendu le Premier ministre en Islande qui a démissionné. On a entendu les Tony Blair s'expliquer sur cette question. Pourquoi on ne peut pas, qui est qui pour qu'on ne puisse pas s'expliquer lorsqu'il s'agit de tels scandales? Je crois qu'il est important de le faire. Il n'y a pas un Dieu sur terre qui soit au-dessus de la loi pour qu'aucun être humain ne puisse se juger.
Vous avez voulu parler de David Cameron en Angleterre.
Oui, j'ai dit que effectivement, c'est David Cameron, je pourrais parler en Angleterre, qui a été cité également et qui s'est expliqué et qui a démontré l'origine de ces fonds. Moi, je ne pense pas qu'à cela, il y a un problème.
Ok. Et le deuxième sujet dont on parlait dans cette émission Panorama économique, c'est la rareté du maïs sur le marché de Lubumbashi. Et du coup, la rareté a entraîné la flambée de prix. Et il fallait des tractations. Et aux dernières minutes, on attend que la délégation du ministre de l'économie qui s'est rendue sur place à Lubumbashi a quand même œuvré pour que le prix redevienne normal sur le marché.
Ce sont des choses, Daniel, qui ne devraient pas s'expliquer dans des pays comme le Congo si nous avions une économie nationale organisée. Et j'ai toujours dit ça de toute ma force, que l'économie congolaise ou que l'économie congolaise est une économie étrangère installée sur le territoire national. Il nous faut une économie nationale, c'est-à-dire une économie qui prenne en compte les besoins réels et effectifs de sa population. Une économie où la fonction de l'offre et celle de la demande peuvent se rencontrer. Voilà un cas concret où pour manger correctement, normalement, un aliment du reste de base, il faut l'importer de l'étranger, alors que nous avons des terres fertiles qui peuvent produire et même exporter du maïs. Mais pourquoi cette négligence? Pourquoi tout le monde est dans les secteurs des diamants, du cuivre qui ne sont pas consommés au Congo? C'est un problème d'organisation de l'économie nationale, comme je l'ai toujours dit, et qui ne se justifie pas au Congo, parce que je pense que si y a un minimum de volonté, nous pourrons, au lieu de nous arrêter au slogan « agriculture, priorité des priorités », nous pourrions bien penser, identifier les besoins effectifs de notre population pour nous engager l'activité et orienter l'activité productive dans ce secteur-là qui intéresse la consommation du citoyen congolais. Mais qu'on en vienne au point où il faut connaître de telles raretés pour qu'il y ait une telle flambée des prix, je pense que ça donne toute la mesure du désordre économique, de la négligence qu'il y a dans la gestion de la chose publique.
Peut-être qu'on pouvait aussi prendre la production de Bukangalonzo ici dans le bandit voisin de Kinshasa, amené au Katanga pour supplier la carence de cette matière.
Malheureusement, je n'ai pas l'impression que la production de Bukangalonzo a permis de nourrir la population de Kinshasa elle-même. Donc je crois que là aussi, si les statistiques qui sont données sont correctes, je crois qu'il demeure toujours un énorme déficit en consommation ou en production de maïs. La demande locale n'est toujours pas satisfaite. Le Congo est un pays qui devrait produire énormément. Vous savez, nous avons en réalité 132 millions d'hectares de terres arables et fertiles. Avec la même étendue de terres arables, la Chine parvient à nourrir son milliard et demi de la population à peu près et exporte le surplus à travers le monde entier, y compris au Congo. Mais pourquoi nous, on doit importer le maïs, importer le cure-dents? Il faudrait multiplier les parcs nationaux des Bukangalonzo en essayant au maximum de rationaliser les coûts et de minimiser les tapages médiatiques quand on pose des actes qui sont normaux.
Et nous allons prendre le troisième sujet, c'est par rapport au marché de change. Nous avions commencé la semaine avec un taux qui nageait entre 940 et 960, mais là on est en train de finir la semaine à carrément 970 francs congolais pour le dollar. Ça c'est sur le marché noir, sur le marché parallèle, et au taux de la Banque Centrale du Congo, on est passé de 942 en début de semaine à 945 en fin de semaine. C'est qu'il y a un problème sur le marché.
Oui, bien sûr, il y a un problème. Le premier problème tient d'abord à la nature de notre monnaie. Cette nature qui fait que, comme je l'ai toujours dit, le franc congolais est une monnaie qui ne réunit pas toutes les propriétés d'une monnaie normale. Ça fait que c'est un ayant habillé en monnaie dont la gestion est trop artificielle, trop mécanique. Ceux qui gèrent le franc congolais, ceux qui en gèrent le taux de change ou la parité par rapport au seul dollar, le font de façon mécanique juste pour donner un effet médiatique, produire un effet médiatique, en parlant d'une fausse stabilité, d'une monnaie qui n'existe pas. N'oubliez pas, Daniel, j'ai toujours dit que quand on parle de la stabilité du franc congolais, on ne devrait jamais perdre le fait qu'un franc congolais est égal à 0,00 dollar américain. On ne peut pas stabiliser un bien à une valeur nulle. C'est bien un problème de la nature d'abord du franc congolais, qui fait que tous les mouvements que cette monnaie peut effectuer sont d'ordre purement artificiel, mécanique, c'est-à-dire relevant d'une certaine volonté de ceux qui ont la gestion de cette monnaie en main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour venir, si le Congo était une monnaie normale, on comprendrait que sa dépréciation est liée, pour le cas du Congo, à ce qui se passe et sur le marché international de nos produits de base et dans la gestion de nos finances publiques. Nous connaissons depuis pratiquement l'année dernière des déficits de nos finances publiques qui, quand ils se produisent, sont financés naturellement par la planche à billets. Les dépenses qui se font habituellement par le gouvernement reposent sur quelle production, c'est des financements monétaires qui surgissent et qui gonflent au jour le jour et qui sont en outre, à mon humble avis, favorisés aujourd'hui par l'environnement politique que nous connaissons qui appelle tout le monde à la prudence. De l'autre côté, il y a le déficit aussi des comptes courants au niveau du commerce extérieur, au niveau de notre balance de paiement. Donc c'est-à-dire qu'avec la baisse des cours de nos principaux produits d'exportation, nous connaissons aujourd'hui une certaine baisse de nos recettes qui fait que qui justifie la rareté du dollar américain sur le marché et donc qui, combiné au fait qu'il y a des dépenses en francs congolais qui viennent du côté du gouvernement en désordre, cela ne peut avoir qu'un effet sur le comportement du franc congolais. Et je crois d'ailleurs, pour ma part, que même ce comportement, si le gouvernement le veut aujourd'hui, il peut l'arrêter à tout moment parce que le franc congolais n'est pas une monnaie qui répond des mécanismes de l'offre et de la demande classique. C'était une monnaie qui est dans la gestion, dont le taux est fixé de façon strictement administrative et bloqué par des mécanismes de gestion des finances publiques que nous connaissons tous.
Donc vous pensez que si aujourd'hui le gouvernement se lève et décide de remettre les choses, de remettre la pendule à l'heure, tout va redevenir normal. On peut retrouver le taux de 92-93 qu'on a connu pendant 2-3 ans.
Parce qu'ils l'ont fait pendant 3 ans. Ils l'ont fait pendant que le dollar américain était en train de prendre de la valeur sur toutes les monnaies du monde. Vous imaginez que l'euro était qui valait un euro qui valait 1,45 $, qui un matin 1,54 $, est descendu aujourd'hui à 1 € pour 1,1 $ américain. Pendant que le dollar gagnait des points par rapport aux principales monnaies du monde dans l'euro, il est resté le taux entre le franc congolais et le dollar américain est resté fixe, très fixe. Est-ce que ça veut dire que l'économie congolaise a des performances supérieures à celles de l'économie de l'Union européenne? Parce que la crise financière que le monde entier a connue nous a affectés tous en affectant la demande sur le marché international. Donc il y a un simple effet de la volonté politique qui consiste à donner l'impression au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, que la situation du cadre macroéconomique est stable, alors le cadre macroéconomique, en réalité, il n'y a pas. La monnaie, on en parle, mais c'est en réalité un néant habillé en monnaie. On parle des autres variables comme le taux d'inflation et autres, comme si ces variables-là étaient véritablement des variables économiques au Congo, alors qu'ils sont des simples amas et des chiffres arbitraires que l'on constitue en un tableau qu'on appelle le cadre macroéconomique. Mais il faut Daniel, le dire avec insistance, il est important que, avant de parler du taux de change, que la Banque centrale donne d'abord à l'économie congolaise une monnaie qui puisse répondre aux conditions, aux propriétés et aux fonctions de toute monnaie classique, c'est-à-dire la convertibilité, la stabilité et la liquidité. La stabilité dont je parle, ce n'est pas la stabilité de 1 franc congolais égale à 0,00 $, non. La stabilité, ça suppose que la monnaie en question a quand même une valeur positive quelconque que l'on veut stabiliser, pas une valeur nulle. Et la convertibilité, vous le savez, le franc congolais n'est plus convertible nulle part. Et la liquidité, vous le savez également, le franc congolais n'est pas une monnaie liquide. Elle fonctionne comme toutes les marchandises que vous voyez au marché et dont la valeur d'échange, dont la valeur entraîne des coûts de transaction. Donc ce sont des choses qu'il faut d'abord voir la gestion de la monnaie au niveau de la Banque centrale avant de pouvoir parler viablement et correctement des taux de change.
Il n'y a plus assez de recettes en devise, les recettes de matières premières, notamment les ressources naturelles, mines et pétrole, quoi. Il n'y a plus assez de recettes qui reviennent au pays en devise et c'est ce qui justifie cela selon la Banque centrale du Congo.
Daniel, la Banque centrale du Congo dit aussi qu'elle dispose de 1,5 milliard de réserves de change. Qu'est-ce qui peut empêcher la Banque centrale d'injecter les 1,5 milliard de dollars sur le marché de change pour calmer le taux? Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Parce que nous avons 1,5 milliard. C'est 1,5 milliard de dollars. qui représente 4 semaines, 5 semaines d'importation, comme on aime à le dire tous les jours. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'on ne les injecte pas pour calmer le taux en relevant l'offre de la devise pour que le franc congolais redevienne plus ou moins rare et gagne un peu de taux par rapport au dollar américain? Moi, je pense que c'est du bluff, c'est quelque chose qui est fait expressément à mon même base.
Merci beaucoup, Michel Somoué, en tout cas, d'avoir accepté de participer à cette émission et de répondre à nos questions pour éclairer ces millions d'auditeurs qui écoutent Radio Capi.
C'est moi, je vous remercie, Damien.
Et c'est la fin de Panorama économique sur votre radio. Merci à Sylvain Matuntu qui était à la prise de son. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à vous, Michel Somoué, pour des analyses et commentaires dans cette émission que je vous convie à retrouver toute la semaine sur www.radioocapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.